Nous avons chanté quelques chants en anglais ce matin. Et nous allons essayer de commencer par un chant en anglais. Pour essayer de faire que les gens viennent à l'heure. Donc à 10h30, ça devrait être rempli d'anglophones. Et les Français vont pas vouloir, les francophones vont pas vouloir être en reste. Non. L'anglais et le français, je sais que beaucoup d'entre vous apprennent des langues.
C'est bon ?
Merci, merci.
Je remercie d'ailleurs Nancy.
Il y en a qui apprennent le français, d'autres qui apprennent l'anglais. D'autres qui essaient d'apprendre les deux ou d'autres langues. Et un des problèmes du français, c'est les verbes.
C'est toujours ça avec discrétion.
Il y a des sourires appréciateurs, approbateurs. Il y a David là, qui se bat avec les conjugaisons.
De Paul aux Corinthiens. Nous avançons.
Et c'est normal de se battre avec les conjugaisons, surtout en français.
Chapitre 14 aujourd'hui. Il y a 16.
Tonio est là, je suis un peu gêné de citer cet exemple, mais lorsqu'il était plus jeune.
Mais pour l'instant,
je me demande ce que font les pasteurs célibataires qui n'ont pas d'illustration venant de leurs enfants.
J'aimerais replacer un peu le passage.
Ils doivent utiliser leurs neveux.
Parce que c'est vrai que depuis
Antonio apprenait le français, il passait beaucoup de temps sur ses conjugaisons.
On a eu juste pour Jésus, on a été à l'armée du salut.
Et on le faisait réviser dans la journée.
Et je voudrais juste vous rappeler quelques
points. On lui expliquait l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir.
D'abord, il faut bien voir que.
Et puis, combien c'était facile en les combinant avec un participe passé d'avoir plein de temps en français.
Au sein de l'église, on a vu qu'il y avait un esprit de parti, il y avait des petits.
Futur antérieur, passé simple,
etc.
Et on a su qu'on avait dépassé les bornes.
Il y avait de l'immoralité qui n'était pas reprise.
Quand un soir, on a été réveillé par Tonio qui parlait dans son sommeil.
C'est plus un manque d'amour.
Paul, il disait, non,
pas des dons spirituels.
Troisième personne, la troisième personne.
Ça laissait à désirer. Et à partir du chapitre 12, Paul commence à leur parler des choses.
Et c'est vrai qu'il y avait ce stress qui se manifestait.
Je ne veux pas faire que vous soyez.
Et c'est le stress de la conjugaison.
Donc les chapitres que nous sommes en train d'étudier, 12, 13, 14 essentiellement.
En fait, la conjugaison.
Des choses spirituelles et notamment des dons.
Ça veut dire mettre ensemble.
Nous avons parlé des dons.
Mettre ensemble un sujet et un verbe.
Et le mot charisme vient du mot.
Un verbe et un temps.
Qui nous rappelle que les
cum, ça veut dire ensemble, cum en latin.
Mériter, c'est pas quelque chose que l'on peut exiger, quelque chose qu'on peut demander.
Et jugaison, c'est juguler, c'est mettre ensemble, mettre sous le même joug.
Le Seigneur, souverainement, nous les donne. C'est le Saint-Esprit qui les donne comme
il. Et donc, l'idée, c'est de mettre ensemble. Une conjugaison, c'est de, on dit, de faire avoir des efforts conjugués, ça veut dire qu'on se met ensemble pour faire quelque chose.
Il y a d'autres. Notamment, qui parle.
Et aujourd'hui, l'apôtre Paul va nous parler de conjugaison impossible.
Éphésiens 4, c'est des questions dans Romains 12, des dons de.
Des conjugaisons qui devraient vous donner des cauchemars.
Vous avez à cœur de servir.
Dans nous allons lire ensemble
de maturation, les dons, les
2 Corinthiens 6, 14.
Mais dans 1 Corinthiens 12, il s'agit de ce qu'on appelle des manifestations. Alors, maître du soir, on a vu une manifestation là, qui est passée dans la rue. On a craint un peu, mais ils ont attendu, là ils ont été sages, ils ont cassé seulement un peu plus loin à la gare. On n'était pas du tout avertis.
Chapitre 6, verset 14, je lis dans la Bible à la Colombe.
Manifester, c'est-à-dire qu'ils faisaient, ils rendaient clair.
Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quel part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Nous arrêterons ici.
Permet à chaque chrétien d'accomplir sa fonction dans le corps de Christ avec facilité et efficacité.
Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Encore une fois, le mot attelage, c'est le mot qui est traduit par ailleurs sous le mot joug. G-O-U-G.
Des membres qui participent au corps de Christ dont Jésus est la tête. Et ça, c'est pour bien expliquer que dans l'Église, il ne doit pas y avoir
un mot qui vient de... En fait, le mot attelage disparate, c'est un mot qui est utilisé en biologie.
Pas l'indépendance, mais l'interdépendance.
C'est le mot hétérozygote.
L'opposé. L'interdépendance,
qui veut simple dire un organisme qui provient de l'union de cellules, de gènes, de constitution génétique différentes.
Maintenant, vous me voyez en train de vous parler de la parole, mais ça, c'est un aspect peut-être visible, très visible, des dons qui sont en action. Mais il y a eu des dons d'organisation.
Et il faudrait demander aux médecins ou aux biologistes
de la louange qui a été exercée. Il y a eu de la préparation.
Les détails, mais l'idée, c'est que le résultat d'une telle union ne va pas être bon.
Décider, venir. Donc, en fait, la réunion du dimanche matin, c'est ça.
Paul a à l'esprit un commandement de l'Ancien Testament.
Et c'est au niveau local que nous sommes un corps de Christ.
Qui disait, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble.
La nation et même du monde.
Donkey.
Paul a bien pris le soin.
Ça, c'est Deutéronome 22:10.
N'avait pas les mêmes dons.
Il y avait un autre passage dans Lévitique 19:19 qui parlait du mélange d'espèces animales, végétales ou même de textiles qui était aussi totalement interdit.
Tous interprétés. Et en grec, la construction ne laisse aucune hésitation.
Donc, l'idée, c'est de ne pas former des relations intimes
donc, nous ne sommes pas
ou très étroites avec des non-croyants.
Que les autres ont.
Si vous êtes un croyant.
Ce que j'ai promis aussi, c'est que chaque chrétien a au moins un don. Vous dites peut-être que moi, je
c'est vrai
faire.
Que c'est un peu du bon sens. Si on a des animaux qui tirent une charrue.
Ne serait-ce que votre sourire, ne serait-ce que votre hospitalité, tout peut. Tout
et qu'on a d'un côté un bœuf très puissant.
Et comme on peut en avoir plusieurs, la combinaison de tous ces dons.
Mais qui va lentement.
Les dons qui sont recensés dans les passages.
Puis de l'autre, un âne qui est peut-être moins costaud, mais qui va plus vite.
Mais pour ceux qui ont fait des maths, la combinatoire de.
Il est fort probable que vos sillons vont pas être très droits.
Parce que rien ne dit que c'est exhaustif.
Alors ça va, ça va peut-être faire un cercle, peut-être ça serait possible. Mais l'idée, c'est de ne pas mettre ensemble des choses qui ne sont pas semblables.
Paul nous encourage à aspirer, c'est-à-dire à désirer avec zèle.
Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate.
Les dons les meilleurs. Alors les dons les meilleurs.
Notons qu'ici,
on en a parlé.
Paul ne parle pas de mariage.
Votre ministère, qu'est-ce que vous faites dans l'église, qu'est-ce que vous avez à cœur de
Paul ne parle pas d'association dans les affaires.
Et si vous devez enseigner le don d'enseignement.
Dans le contexte, il parle des faux apôtres qui enseignaient des contre-vérités à l'église de Corinthe.
souvent vous pouvez déjà l'avoir, mais vous pouvez demander d'autres dons.
Ça ne veut pas dire que cette vérité ne s'applique pas au mariage ou aux affaires, au monde des affaires.
Et le chapitre 13, nous avons vu que c'était, pour reprendre le titre,
et lorsqu'on parle de séparation, donc on va rester à l'écart de ceux qui sont différents de nous.
La voie par excellence. Nous avons rappelé qu'il y avait une très belle...
Quelque part, on a une réaction de...
des dons et de l'amour dans le vêtement du grand prêtre, sur l'ourlet de sa robe...
L'idée de se prendre pour des gens plus spirituels que les autres et d'être à l'écart.
Mais il y avait aussi des grenades qui étaient pour les Juifs un exemple même du fruit qui donne beaucoup de
fruits. Encore une fois, ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas.
Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour.
Lorsqu'on est attelé avec quelqu'un,
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur,
on est proche de la personne.
Le mot fruit est singulier, et on pense que le vrai fruit
un joug, la pièce de bois qui permettait de mettre ensemble deux animaux.
Et cet amour, c'est un
des fois
amour.
C'était du bois, des fois c'était du bois et du cuir, c'était un harnais.
L'amour qui vient de Dieu.
C'est quelque chose qui était conçu pour durer.
J'ai entendu une fois un chant qui s'appelait...
On
ne
mettait pas un truc en léger qui allait se casser au bout de quelques sillons.
Une fois, et les paroles m'avaient vraiment saisi. Et depuis plusieurs années,
un joug, c'était quelque chose de très costaud.
Des livres de chant, d'hymnes.
Il s'agissait de solidariser les deux animaux. Un joug, c'était aussi quelque chose qui restreignait.
Grâce à l'internet, hier, en 2-3 coups de souris,
on ne peut pas dire tiens, on est ensemble sous le même joug, moi je vais aller à gauche, toi tu vas aller à droite.
Et la chanson s'appelle simplement.
Un joug, c'est contraignant.
Je ne vais pas tout vous lire.
Et c'est fait pour durer.
Mais.
Donc lorsque Paul parle d'attelage, il parle d'engagement.
D'un des couplets,
il parle de l'engagement dans le mariage, l'engagement dans les affaires, l'engagement dans la doctrine. On
ne
peut pas dire je suis mormon et chrétien évangélique.
Et si tous les cieux étaient comme un parchemin.
C'est pas possible.
D'herbe.
Il est très important de ne pas utiliser ce verset pour dire maintenant on va vivre dans notre tour d'ivoire.
Et si chaque homme, chaque femme était un scribe, un écrivain,
on va éviter toute association avec les non-croyants.
Il dit que d'écrire l'amour de Dieu.
Paul vient de nous dire que nous sommes des ambassadeurs pour Christ.
Ça assécherait ces océans.
En principe, l'ambassadeur, il ne reste pas dans son pays.
Ne pourrait pas prendre place.
Il va dans l'autre pays. Paul n'a jamais prescrit la séparation vertueuse avec le monde qui nous entoure. Jésus lui-même nous a dit... Dans sa prière au Père, il disait, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et ça, c'est tout le défi de la vie chrétienne. C'est d'être dans le monde, sans embrasser les valeurs du monde pour nous-mêmes.
L'amour de Dieu est insondable.
Et c'est tellement facile de faire la deuxième chose. Nous avons tendance à dire je ne vais pas me laisser corrompre.
Et puis,
je vais aller dans tel endroit.
Jésus me dit que lorsque Jésus apparaît,
et je vais les influencer.
Lorsque le parfait.
Et bien souvent, on le voit dans l'Église aujourd'hui.
Le canon des Écritures, c'est-à-dire la
c'est le monde qui a influencé l'Église.
Nous avons vu que
Quelqu'un a fait très, très justement remarquer que pour qu'un bateau soit un bateau,
nous connaîtrons parfaitement comme nous sommes connus.
Il faut qu'il soit dans l'eau.
Ça ne pouvait pas être autre chose que le.
Tant qu'il est sur les galets, c'est pas un bateau vraiment.
Il viendra nous voir sur la terre.
Mais attention, si l'eau est dans le bateau,
dans les détails de
alors le bateau cesse aussi d'être un bateau.
Une chose est sûre, Jésus va revenir.
Cease to be a boat.
Et je crois que c'est seulement à ce moment-là que.
Il devient une épave.
Seront abolis.
Nous avons un message d'amour. Nous avons un message d'espérance que nous avons à partager avec un monde qui a tellement besoin de ce message.
Donc, Paul disait, l'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties.
Mais en même temps, nous devons prendre garde que ce ne soit pas le monde
qui
nous influence.
Ce qui est partiel sera aboli.
Ne formons pas avec les incroyants un attelage disparate.
Pour dire que c'est l'amour qui est la plus grande de toutes ces qualités, de toutes ces choses.
Quel est le joug dont Paul parle exactement ?
Nous avons aussi une chose importante, c'est que les dons doivent être.
Encore une fois, on en est réduit aux conjectures. On peut penser que c'est avec les faux enseignements, les fausses doctrines.
Pour nous enorgueillir, ce doit être des outils.
Les fausses influences, les mauvaises influences dans notre vie.
De répandre cet amour autour de nous.
Ça peut être le mariage.
Et on a parlé d'analogie.
Ça peut être les relations étroites dans le monde des affaires.
Et que quelqu'un vienne avec un fichier en argent finement ciselé, brillant de tous ses feux.
Mais une chose est sûre, c'est qu'il nous demande de faire attention.
Alors il met d'aucune utilité. Par contre, quelqu'un qui viendra avec
les mariages avec les non-chrétiens.
Cette eau-là va nous faire énormément de bien parce que c'est le contenu.
C'est souvent un grand problème.
Contenant. Les dons, c'est un peu ce que Paul disait.
Vous vous dites, surtout en France.
Chapitre 13, si j'avais tous les dons, si j'ai pas l'amour, tu dois le.
Et porter. Je sais que parmi nous,
ça sert à rien, c'est zéro.
Il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes femmes qui aimeraient
donc,
se marier.
Donc, c'est une parenthèse au chapitre 13 sur l'importance de l'amour par rapport
qui
aux
se
dons.
Disent.
Et sans doute, c'est parce que
on n'est pas nombreux. Le choix est restreint. Allons voir ailleurs ce qui se passe.
De pouvoir parler en don plus fort que les autres, ou tout en même
encore
temps,
une fois, il ne s'agit pas d'être monacal, d'être comme des moines.
À Corinthe. Il ne savait pas, mais ce que ça savait, c'est que c'était.
De ne jamais fréquenter d'autres personnes.
Mais tout spécialement lorsque votre cœur est à la recherche d'un partenaire pour la vie, faites attention à vos fréquentations. Parce que parmi les non-croyants, il y a des gens qui sont très gentils, qui sont très attentionnés, qui sont très intelligents, qui peut-être sont même très beaux. Et insensiblement, votre cœur peut être attiré par ces personnes. Et la Bible nous dit, n'entrez pas dans des attelages disparates. Bien sûr, on se dit, mais il est tellement gentil. Elle a tellement de compassion pour les autres que je suis sûr qu'elle va devenir chrétien. Qu'il va devenir chrétien. Encore une fois, tout est possible. Et dans ma famille, dans la famille de Nancy, on a l'exemple d'une jeune fille à qui ça a réussi, entre guillemets. Son mari est un croyant et maintenant pasteur. Et je ne devrais pas vous dire ça, parce que ça, je vois que ça donne des espoirs à certains.
Pierre dit qu'il ne peut pas vous dire ça, parce que certains de vous sont en train de se faire.
Encore une fois, c'est pour dire que la grâce, c'est le message de l'Évangile. Dieu peut vous sortir des mauvais pas, mais ne soyez pas stupides. N'entrez pas dans ces mauvais pas. Cette belle sœur, ça n'a pas été tout rose pendant plusieurs années, j'aime mieux vous dire. Et pour une histoire qui se termine bien, je pourrais en citer 100 qui se terminent mal. Vous me dites très bien, mais Pierre, franchement, où est-ce que je peux trouver un mari? Où est-ce que je peux trouver une femme? Moi, je vous dis, regardez au Seigneur. C'est pas la solution que vous attendiez. Mais c'est la solution de la foi. Remettez ce désir de votre cœur au Seigneur. Priez. Servez-le. Oubliez ce but. Et je peux vous garantir qu'en son temps, ça aussi c'est pas quelque chose qu'on aime entendre, vous allez découvrir le bon plan qu'il a pour votre vie. Ne formons pas avec les incroyants des attelages disparates. Même problème dans les affaires. Une autre chose pour revenir, parce que je sais qu'il y en a qui restent sur leur faim. Si vous voulez rencontrer des chrétiens, n'allez pas dans les boîtes de nuit techno. Allez dans les groupements chrétiens. Allez passer des vacances avec des chrétiens. Fréquenter des chrétiens d'autres églises. Tout en restant fidèle à votre église. S'il y a un moment où le mariage doit survenir, il sera toujours temps de décider si vous irez chez lui ou s'il viendra chez vous, ou vice-versa. Profitez des opportunités qui peuvent vous être données de rencontrer d'autres chrétiens, des rassemblements. Partez faire des missions de court terme, peut-être. Servez ensemble avec d'autres chrétiens. Les affaires. Là aussi, vous dites, cet homme là porte des capitaux, ça serait, je pourrais monter mon affaire. Et donc vous vous dites, on va monter cette SARL dont il m'a parlé. Seulement le problème, c'est que lui, ses valeurs sont complètement différentes des vôtres. Vous voulez travailler pour servir le Seigneur. Vous aimeriez pourvoir des emplois pour les gens autour de vous. Vous voulez faire des affaires honnêtes. Mais lui va vous demander de tricher, de faire des fausses déclarations aux impôts. Et vous allez être comme le bœuf et l'âne qui se sentent écartelés. Point important aussi, toujours pour le mariage, si vous vous trouvez être marié à un non-croyant, nulle part il est dit au contraire dans 1 Corinthiens 7, il n'est pas question de se séparer, de divorcer pour cette raison. Si vous êtes marié et que l'autre n'est pas croyant, Paul vous invite à vivre votre vie de croyant de tout votre cœur. Avec l'espoir de peut-être que la femme sauvera son mari ou le mari sauvera sa femme, 1 Corinthiens 7, 16. Paul, vous vous souvenez, il aime bien les questions, ce qu'on appelle les questions rhétoriques. C'est-à-dire que, un peu comme je le faisais, il entend vos questions avant que vous les posiez. Il en pose 5. Et une question rhétorique, c'est une question dont la réponse est évidente. C'est une réponse ici, une réponse négative qui est attendue. Quelle association, dit-il au verset 14, y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part a le croyant avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Paul veut insister, veut bien nous montrer l'incompatibilité entre la foi chrétienne et l'incroyance, le paganisme. Et pour montrer combien des relations intimes sont ridicules. Il commence par donc cette question entre deux caractéristiques abstraites, la justice et l'iniquité. En fait, le terme iniquité, c'est le terme qui veut dire être hors la loi. Est-ce que quelqu'un qui aime le droit peut s'unir étroitement avec quelqu'un qui le méprise? Quelqu'un qui respecte la justice se mettre avec quelqu'un qui s'en contrefiche et qui veut faire que ce qu'il veut? Ça, c'est la solution garantie pour les problèmes. Il n'y a aucune chose en commun. Quel partage? Il n'y a rien en commun. Il continue avec toujours deux caractéristiques, la lumière et l'obscurité. La lumière et l'obscurité, c'est les choses les plus opposées qui puissent être. La plus petite allumette dans une cave sombre va faire partir les ténèbres. Jésus nous a dit que nous étions la lumière de ce monde. Les incroyants sont dans le noir, ils sont dans l'obscurité. Encore une fois, c'est pas parce que à l'intérieur de nous, nous sommes tellement, tellement purs, nous sommes tellement supérieurs que nous sommes la lumière et les autres sont le noir. C'est simplement que nous avons Nous sommes venus dans la lumière. Et nous sommes la lumière dans le Seigneur maintenant. La lumière, c'est un symbole qui veut dire la compréhension. Imaginez maintenant que vous, vous avez compris, vous avez la perspective éternelle. Vous savez ce que la vie signifie. Et puis vous allez vous mettre avec une personne qui vit dans l'illusion, dans l'égoïsme, qui pense que je mérite le bonheur. Comme dit McDonald, vous avez besoin d'un break. Vous méritez un break. Est-ce que vous voyez l'incompatibilité entre ces deux visions du monde et des choses? Encore une fois, bien sûr, on peut avoir des relations superficielles. On peut avoir des relations physiques. Mais ça, ça va être la surface. Si on veut quelqu'un pour être notre... Y a-t-il une communion entre la lumière et les ténèbres? Non. Quelqu'un disait, mais où est-ce que va l'obscurité quand on allume la lumière? La pièce est noire. Je pousse sur le bouton. Et l'obscurité est partie. Où est-ce qu'elle s'est cachée? Elle a dû se cacher pas très loin parce que dès que j'éteins, elle revient. C'est risible, bien sûr, c'est un peu bête cette illustration. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que si vous n'êtes pas la lumière, l'obscurité de l'autre va vite revenir. Encore une fois, si vous êtes marié et que l'autre n'est pas vraiment croyant, vous devez être la lumière en permanence. Paul continue en comparant des personnes. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Alors, qui c'est ce gars-là, Bélial? En hébreu, on me dit que Bélial, c'était un terme qui voulait dire quelqu'un de bon à rien, un vaurien. Et bien sûr, le summum de ce genre de personne, c'est Satan lui-même. Satan ne fait rien de bon pour vous. Et donc là, il dit littéralement le mot quel accord, c'est le mot symphonie. Est-ce que Christ, votre sauveur, peut jouer dans le même orchestre que Satan? Tout à l'heure, Mike avait quelques problèmes d'accord. Quel accord entre Christ et Bélial? Ça sera une cacophonie. Et un jour ou l'autre, si vous êtes dans cette situation, il vous faudra choisir aller à droite ou aller à gauche, suivre Christ ou suivre l'ennemi. Rien que de savoir que ça va vous tomber dessus, un jour il va falloir prendre une vraie décision et ça va vous stresser. On ne peut pas, Jésus l'a dit d'une autre façon, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Rien de commun entre Christ et Satan. Puis il continue encore une fois, quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Nous l'avons déjà dit, il n'y a pas du tout les mêmes repères de valeur. Souvenez-vous de ce que Paul nous disait, regardez les choses invisibles parce qu'elles sont éternelles. Les choses visibles que vous voyez, il est beau, il est sympa, ça c'est pas des choses réelles, c'est des choses temporaires. Paul continue en disant qu'en fait, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles. Nous appartenons exclusivement à Dieu. Il nous a fait, il nous a créé et il nous a racheté. Il nous a payé, il a payé une deuxième fois pour nous. On lui appartient doublement. Et nous sommes le temple du Dieu vivant. Alors ça peut être pris collectivement. Vous savez qu'il est dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Paul, dans 1 Corinthiens, a plusieurs passages où il nous a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il nous dit aussi que, individuellement, nous sommes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Your body is the temple. Mm-hmm. Que vous en avez. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu et nous ne sommes pas à nous-mêmes. Nous ne nous appartenons pas. Ça viendrait à l'idée de personne de demander les clés de la voiture de Paul et d'aller vendre sa voiture ce matin. Et quand nous disons, bon, mais je vais m'associer avec cette personne dans le business, dans le mariage, ou je vais suivre leur enseignement de fausse doctrine, c'est aussi ridicule que de dire, je vais prendre la voiture de quelqu'un d'autre et la vendre à une autre personne. Nous ne nous appartenons pas. C'est peut-être décevant, humiliant, déconcertant. Mais quelque part, ça devrait être tellement libérateur. Ma vie, je la remets à Dieu qui m'aime. Mes projets, mes circonstances, je les lui donne. C'est pas à moi. C'est lui qui est responsable. Le projet de ce local, nous voulons le mener dans cette optique. Lead it or... On veut que cet endroit soit un endroit qu'il puisse utiliser. Qu'il puisse, je crois que Tonio, si tu veux voir, je crois que c'est arrêté là. L'enregistrement, non? Non? Oh. On veut qu'il puisse nous utiliser, utiliser ce local pour toucher des milliers de personnes. On n'a pas les sous pour l'acheter maintenant. On a des sous pour le louer. Nous le louons. S'il veut nous garder là, s'il veut agrandir, c'est vraiment son problème. C'est vrai qu'on peut, on peut s'investir et vouloir plus, mais c'est un piège. on veut que ce soit un bureau de sauvetage. On veut jamais que ça devienne un yacht club. On veut que notre bateau il soit dans l'eau. On ne veut pas que le bateau soit au mur avec des plaques. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous ne nous appartons pas nous-mêmes. Donc n'allons pas faire quelque chose qui serait contraire à la volonté de Dieu. D'autant que Paul nous a expliqué les raisons de nature qui font qu'on ne peut pas s'allier avec des non-croyants. Il continue en nous rappelant l'ordre qui est donné par l'Écriture. Ça, c'était l'ordre de l'Éternel au peuple d'Israël qui disait « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. » Ça s'appliquait bien sûr dans le cadre des Hébreux qui devaient sortir de Babylone. Ésaïe, le prophète, dans le verset 50, chapitre 52, verset 11, disait « Sortez du milieu de cette ville, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Paul, vous le remarquez encore, connaissait la parole. C'est intéressant parce que quand on regarde les passages qui ont inspiré ces paroles, on se dit, mais en fait, il ne les a pas cités exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le système de versets, de chapitres. Il n'y avait pas tellement de Bible qui circulait, pas de Bible online. Mais il pouvait, de la richesse de son cœur, sortir plein d'arguments. Il avait compris le message de Dieu. Et il voulait nous dire que la séparation d'avec le monde va conduire à la communion avec Dieu. Et dans les versets qui suivent, dans la seconde partie, il nous parle des promesses de la bénédiction de Dieu si nous nous séparons. Le Seigneur qui dit « Moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et là, il reprend plusieurs versets de l'Ancien Testament qui sont peut-être en note dans votre Bible. Mais c'est vrai que si nous vivons près du Seigneur, si nous avons reçu son Fils, alors nous sommes les enfants de Dieu. C'est une intimité avec Dieu qui vaut toute chose. S'il est vraiment notre tout en tout, c'est la traduction de ces paroles « You are my all in all » qui est difficile à chanter avec « Tu es mon tout pour tout, mon tout en tout ». Si vous avez une idée de traduction, on peut en parler. Il dit « Puisque nous avons de telles promesses », verset 7, notez bien qu'il ne parle pas des commandements. Il parle de promesses. Encore une fois, ça c'est le message de la grâce. Dieu nous ordonne les choses. mais il nous assure de bonnes choses. Et c'est à nous de limiter les périodes de lutte en allant vers lui et en nous soumettant à lui. Nous avons deux raisons au moins pour être séparés dans ce verset. Deux raisons, on dirait presque la carotte et le bâton. Mais ce serait mal comprendre le verset. La première raison, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, où il est, il nous dit que nous sommes des bien-aimés. Mercredi, on a commencé à revoir l'Apocalypse. Que ceux qui ont, les sept personnes qui ont sept questions à préparer sur les sept églises, n'oublient pas pour mercredi. Ça c'est entre parenthèses. Mais dans le premier chapitre, une expression qui m'a touché, c'est parlant de Christ, Jean parle de celui qui nous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous en êtes convaincu au plus profond de vous-même? Ou est-ce que vous le croyez quand les choses vont bien? Mais dès que les choses commencent à être dures, est-ce que vous dites, je ne suis pas si sûr que ça? Bien aimé par Paul, mais bien aimé par Dieu. Et puis le deuxième élément, c'est la crainte de Dieu. Alors c'est vrai que la crainte de Dieu, ça peut être la vision d'un Dieu qui est prêt à prendre une barre d'acier pour briser les nations. Et c'est vrai qu'à la fin des temps, de façon ultime, c'est ce qui va se produire pour ceux qui auront persisté contre Dieu. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, la crainte de Dieu, c'est surtout, je crois, la crainte de lui déplaire. La crainte de ne pas le satisfaire. Quand vous savez que quelqu'un vous aime, vous avez à cœur de leur plaire. Pas pour mériter davantage, mais par reconnaissance. Parce que vous aussi, vous aimeriez donner quelque chose en retour. La grâce n'attend rien en retour. Mais la peur de l'Éternel pour le chrétien, c'est bien sûr la peur de décevoir le Seigneur. On s'en souvient, on en a parlé un mercredi de cette parabole des talents. Et on voit que celui qui avait cette vision du Dieu méchant, qui est injuste, qui frappe, qui a caché son talent sans le faire fructifier, c'est lui qui est chassé par Dieu, parce qu'il avait une vision tellement à l'opposé de qui est Dieu réellement. Et en même temps, il est bon de se rappeler que la peur de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et il y a un passage clé, je crois, pour nous qui vivons dans notre société. Et ce passage se trouve dans l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est juste après les psaumes, les proverbes. Et c'est l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 11. Qui dit, parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est point exécutée promptement, le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli du désir de faire le mal. Autrement dit, on se dit, pas vu, pas pris. Seigneur, calme cet enfant, ou envoie un... C'est bon. L'idée que jusqu'ici j'ai continué dans ce péché et rien ne m'est arrivé. Il n'y a pas eu de tonnerre dans le ciel et d'éclairs qui m'ont foudroyé. Et ça serait la fausse sécurité. La peur de l'Éternel, c'est de savoir aussi que nous avons à rendre des comptes à Dieu. Et donc nous avons des responsabilités. Deux responsabilités. La première, c'est l'aspect négatif, c'est se purifier. Il est bon de demander à Dieu de nous purifier. Nous avons sa promesse que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de toute iniquité, de nous laver de nos péchés. Jésus disait même, si votre main vous conduit à pécher, il vaudrait mieux que vous la coupiez. Nous avons une responsabilité d'éloigner les choses qui sont mauvaises dans notre vie. Les influences mauvaises, quelles qu'elles soient. Je crois que le Saint-Esprit peut, en ce moment même, nous montrer personnellement les choses que nous devons abandonner. Et puis la deuxième responsabilité, c'est rendre la sainteté parfaite. Développer jusqu'à son terme la sainteté. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Le fait que nous allons devenir de plus en plus semblables à l'image de Christ. Que nous n'allons pas retomber aussi souvent dans les mêmes péchés. Que nous allons demander pardon à Dieu plus rapidement après avoir réalisé que nous avons péché encore. La sanctification, c'est quelque chose que Dieu accomplit en nous. Mais encore une fois, la grâce fait qu'il ne peut pas nous forcer. Nous avons à coopérer. L'Esprit Saint va nous montrer les choses qui ne sont pas bonnes. Mais Dieu ne force jamais la porte. Nous devons prendre les mesures qui s'imposent. J'aime bien la distinction qu'il fait, les souillures de la chair, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de s'occuper de l'extérieur. La chair, nos actions, c'est vrai que cela, c'est le plus facile, on voit ce qui est mauvais dans nos vies. Mais le Seigneur voit au cœur. Et il voit les attitudes qui sont dans notre esprit. C'est comme le petit garçon qui disait à sa maman, je t'obéis au-dedans, mais à l'intérieur, je ne t'obéis pas. Je t'obéis à l'intérieur, mais à l'extérieur, mais je ne t'obéis pas dans mon cœur. On peut être pareil avec le Seigneur. Le mot pharisien, ça voulait dire justement les séparer. Mais ils étaient séparés extérieurement. Jésus voyait que leur cœur, il était plein d'ordures. Et rien de plus triste et de plus contraire au témoignage de l'Église qu'une Église qui s'occupe de l'extérieur sans s'occuper de l'intérieur, de la pureté personnelle, de la présence des fruits de l'esprit. Ne formons pas avec les incroyants un attelage disparate. Encore une fois, le compromis, ça commence par l'amitié avec le monde. Jacques 4:4. Puis ça conduit à l'amour avec le monde, l'amour du monde. Ça, c'est 1 Jean 2:15. Mais le danger, c'est que ça conduit à la conformité avec le monde, Romains 12:1. Et c'est progressif, on ne s'en aperçoit pas. Vous connaissez l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude. Si vous mettez vous déposez une grenouille vivante dans une casserole d'eau bouillante, elle va se débattre, elle va arriver à sortir, elle va se brûler un peu les pattes, mais elle va s'en sortir. Si vous la mettez dans de l'eau froide et que vous mettez un peu de chaleur, vous la mettez sur le gaz à feu doux, pardon pour les Anglais qui sont dégoûtés par l'histoire des froggies. Mais c'est comme ça qu'on va arriver à faire mourir la grenouille. Elle ne va pas sentir, elle va se sentir bien, et puis quand il se sentira trop chaud, il sera trop tard pour réagir. Encore une fois, je ne veux pas que vous sortiez d'ici en disant « ça y est, c'est fini, je ne vais plus voir mes amis non-chrétiens ». Paul disait dans Corinthiens, si un non-croyant vous invite et que vous y alliez, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous poser aucune question par motif de conscience. Et la question, c'est bien sûr si on peut pas se mettre sous un joug avec un non-croyant, une non-croyante, un homme d'affaires qui ne partage pas nos valeurs chrétienne, c'est toujours une attitude de défense. En fait, j'aimerais vous laisser avec un verset qui est très connu, qui est l'appel de Christ à venir le rejoindre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous dit quel est le joug qu'il faut prendre. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et il nous dit, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Et le mot qui veut dire aisé, ça veut dire qu'il est fait sur mesure. il est adapté à vous. Si vous le suivez, ça ne va pas être si dur que ça. Parce qu'il vous connaît. C'est lui qui vous a fait. Il sait vos attentes. Il sait que vous priez pour avoir un époux, une épouse. Et il va vous faire quelque chose de sur mesure. La question, est-ce que vous avez la foi en lui? Est-ce que vous croyez qu'il vous aime vraiment? Oui. Ne formons pas avec les incroyants d'attelage disparaître. Amen. Prions. Seigneur, merci de chercher nos cœurs. Et peut-être que cet attelage disparate, c'est avec des influences, et peut-être avec des distractions, des loisirs, des programmes de télé. Des rêveries impures. Des sentiments de jalousie. Mais Seigneur, aussi dans le domaine de la recherche d'un compagnon, d'une compagne. D'associer. Aide-nous, Seigneur, à te donner la place. Aide-nous, Seigneur, à venir à toi sous ton joug. Ton joug qui est fait sur mesure pour nous, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, qu'on voit des fois des situations vécues par des chrétiens, on dit « je ne pourrais jamais le faire ». Mais eux, en fait, ils sont heureux parce que leur joug leur va bien. Aide-nous, Seigneur, à avoir la foi que tu nous aimes. Tu as de merveilleux plans pour chacun et chacune d'ici présent. Aide-nous à marcher, Seigneur, séparés du monde, mais dans le monde. Aide-nous à être ces bateaux de sauvetage qui ne prennent pas l'eau.